Accent d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour à tous, le langage est politique. Bonjour Bernard Cerchilini.
Bonjour.
Vous êtes universitaire et linguiste, vous nous accompagnez aujourd'hui pour parler de votre dernier livre, Le ministre est enceinte, c'est paru au Seuil. Mais d'abord j'ai une question pour vous sur le Brexit. Est-ce qu'avec la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, on va plus parler anglais à Bruxelles? Est-ce que c'est simplement envisageable?
Les défenseurs de la langue française et les militants de la francophonie se réjouissent du Brexit. Car ils font remarquer que aucun pays européen n'aura le l'anglais comme langue officielle.
Oui, parce que ce n'est pas la langue officielle, ni en Irlande, ni à Malte.
Exactement. Donc, de fait, l'anglais disparaît des 27 langues officielles. Je ne partage pas leur optimisme, car au contraire, l'anglais va renforcer sa nature de lingua franca internationale de communication. Il va dominer les autres langues et permettent de passer de l'une à l'autre. Je crois que, pour bien des raisons, le Brexit est une très mauvaise nouvelle, y compris pour nous, francophones.
Alors, quand vous dites lingua franca, on dit aussi globish, hein, pour cet anglais qu'on parle à Bruxelles.
Et qui va continuer à être parlé, il va être non plus lié à un pays, mais il va être lié à une communication aisée. Je crois que, malheureusement, l'anglais va se renforcer à l'Union Européenne.
La langue anglaise omniprésente, au point d'être perçue, parfois, comme une menace. En Islande, la petite île volcanique de l'Atlantique Nord, l'anglais s'est imposé avec l'usage des nouvelles technologies, à tel point que des spécialistes s'en inquiètent. Question de survie linguistique. Reportage à Reykjavik de Jérémy Richard.
Solveig Reynisdóttir distille à ses élèves les dernières consignes avant l'exercice de la leçon d'islandais, lecture et compréhension de texte. Les 23 petites têtes blondes écoutent attentivement leur professeur. Parmi eux, Sigþór Eliasmith, 11 ans.
C'est une langue difficile à apprendre, mais c'est une immense fierté de savoir parler islandais.
Mais au pays des glaciers et des volcans, où vivent désormais plus de 355 000 habitants, l'anglais occupe une place prépondérante. Et savoir maîtriser aussi la langue de Shakespeare est une nécessité pour Sigþór, qui répond tout de même en islandais.
Je dois être capable de lire l'anglais, car c'est une langue omniprésente. Et c'est le langage universel.
En Islande, de nombreux contenus, jeux, vidéos ou animations sont d'abord en anglais, car comme chez les autres voisins nordiques, le doublage est quasiment inexistant. Eva Björk Angarita, 12 ans, enrichit son vocabulaire sur la toile.
Sur Internet, par exemple, je regarde beaucoup YouTube. J'apprends comme ça, d'ailleurs, mais aussi avec Netflix et d'autres choses en ligne. Il y a tellement de gens qui parlent anglais. C'est une langue très importante à connaître et facile à apprendre. C'est important aussi de savoir parler plusieurs langues plutôt qu'une seule.
À 36 ans, Solveig Reynisdóttir enseigne l'islandais depuis plus d'une décennie. Professeure à Háaleltiskoli, une école de Reykjavik, elle constate les premiers effets de la forte exposition à l'anglais des jeunes islandais.
Les enfants lisent moins, ils sont plus sur leur tablette ou sur leur ordinateur. Du coup, ils manquent de mots. Ils doivent enrichir leur vocabulaire plus qu'avant, car il y a des mots qu'ils n'ont jamais entendus.
Une étude intitulée « Les conséquences linguistiques au contact du langage numérique » dévoile que parmi les enfants de 3 à 5 ans, 35% jouent à des jeux vidéo interactifs en anglais et jusqu'à 60% des 8-12 ans. Le développement du numérique n'a fait que renforcer la place d'une langue déjà plus présente que dans d'autres pays d'Europe. Eiríkur Rögnvaldsson est professeur d'islandais à l'Université d'Islande et conduit cette étude.
Les jeunes islandais, et je suppose que c'est vrai aussi dans d'autres pays, ne voient pas forcément leur avenir en Islande. Ils veulent partir étudier, vivre à l'étranger. Il apparaît que la connexion à leur île natale et à leur langue n'est plus aussi forte qu'elle l'était.
Le gouvernement islandais a ainsi décidé de prendre les choses en main en annonçant à l'automne dernier un vaste plan de soutien à l'islandais. Il prévoit notamment l'investissement de près de 17,5 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour développer la reconnaissance vocale, jusqu'ici inconnue, des assistants personnels intelligents. Lilja Alfredsdottir est ministre de l'Éducation, de la Culture et des Sciences.
Les enfants sont tellement habitués aujourd'hui à entendre et à comprendre en anglais que l'on voit en fait des changements dans la façon dont ils comprennent l'islandais et forment des phrases. Nous suivons cela avec beaucoup d'intérêt parce que nous sommes très fiers de notre langue et que nous lisons et écrivons en islandais depuis l'arrivée des premiers colons.
C'est que les racines de l'islandais plongent dans un passé lointain. Les sagas ont traversé les siècles sans prendre une ride. Ces chefs-d'œuvre de la littérature médiévale, toujours très lus, viennent du vieux norrois, ancêtre des langues nordiques. Avec un peu d'apprentissage, un islandais peut ainsi lire encore aujourd'hui des textes rédigés au XIIIe et XIVe siècle, la langue n'ayant que très peu changé. et pour Harry Potter Kristinsson, chercheur à l'Institut Árni Magnússon d'études islandaises, aucune véritable menace ne pèse aujourd'hui sur la langue nationale.
90% de la population islandaise a l'islandais pour langue maternelle ou première langue. Ceci ajouté à la forte tradition culturelle à travers, par exemple, les publications académiques ou littéraires en islandais, ce sont des signes forts et nous ne devons pas être aveuglés par les quelques voyants rouges.
La tradition littéraire de l'Islande est encore bien ancrée, en témoignent les quelques 1600 livres papier publiés chaque année selon la Bibliothèque nationale et universitaire. Et si les influences extérieures ont eu raison de nombreux idiomes, l'islandais reste l'une des langues les plus pures du monde. La commission linguistique y veille d'ailleurs scrupuleusement en trouvant la meilleure traduction possible au néologisme. Téléphone se dit par exemple Simi, télévision Sjönvarp et email Tölvepostur. Gudrun Kvaran est présidente de cet organisme gouvernemental.
Ce n'est pas la première fois que les gens disent que l'islandais va disparaître. Nos fameux experts linguistes danois disaient il y a 200 ans que l'islandais serait mort d'ici 2 siècles. Or, nous parlons toujours islandais aujourd'hui.
Jusqu'à présent, les migrations, les invasions danoises ou norvégiennes et la révolution industrielle n'ont eu aucune emprise sur une langue que Björk ou Sigur Rós déclinent avec succès dans leur chanson. Klingló, klukkan sló, máninn ofar skýjum hló, líst upp gamla götu sló, þar glæðleg lína stó.
En Serbie, c'est l'usage de l'alphabet cyrillique qui ne cesse de régresser, une tendance qui s'accélère depuis le début des années 2000 pour tenter de sauver ce marqueur de l'identité nationale. Belgrade veut forcer les institutions, les écoles, mais aussi les entreprises privées à l'utiliser. C'est un combat qu'on mène aussi dans la partie serbe de la Bosnie voisine, Simon Rico.
Il faut sauver le cyrillique. Ce mantra, les autorités serbes le répètent depuis longtemps, mais aujourd'hui, la situation serait suffisamment grave pour que le gouvernement national libéral d'Ana Brnabic en vienne à vouloir légiférer sur la question. L'alphabet latin est en effet en train de s'imposer en Serbie, notamment chez les plus jeunes pour qui c'est devenu la norme quand ils s'expriment sur les réseaux sociaux. Le coupable de cette irrémédiable le changement est tout trouvé, il s'agit de la mondialisation qui a tendance à tout uniformiser. Issu d'une scission avec l'extrême droite, le parti progressiste au pouvoir a donc décidé d'employer la manière forte en vue de sauver l'écriture cyrillique, symbole de l'identité nationale et de la religion orthodoxe, marqueur de différenciation entre les langues serbes et croates. Les autorités de Belgrade ne sont pas les seules à mener ce combat. De l'autre côté de la frontière ouest, le gouvernement de Republika Srpska, l'entité serbe de Bosnie-Herzégovine, serait lui aussi en train de s'atteler à la rédaction d'une loi visant à imposer le cyrillique comme alphabet principal. Une mesure immédiatement qualifiée d'anticonstitutionnelle par les Croates et les Bosniaques qui rappellent que les écritures latines et cyrilliques doivent rester sur un pied d'égalité. En Serbie, la constitution de 2006 fait du cyrillique l'alphabet officiel du pays qui oblige à l'utiliser dans toutes les communications officielles sauf avec les minorités nationales. Des mesures ont déjà été prises pour encourager l'usage du cyrillique comme dans la capitale Belgrade où l'on promet des récompenses aux organismes qui l'utilisent. Mais de l'incitation, on passe aujourd'hui à la répression. Le cyrillique pourrait devenir obligatoire dans toute l'administration publique, les écoles et les universités, mais aussi pour les entreprises qui devront rédiger dans cet alphabet tous leurs documents, certificats et factures. Les contrevenants seront passibles d'amendes, mais sur les réseaux sociaux, rien ne devrait changer.
L'existence d'une langue ou d'une écriture menacée de l'extérieur. Et parfois, le combat se mène à l'intérieur. Vous retrouvez Bernard Cerchilini. C'est un peu le sentiment qu'on a avec la langue française et la féminisation des noms. Le titre de votre livre est éloquent. À cet égard, le ministre est enceinte. Alors aujourd'hui, on dit la ministre, la première ministre ou la chancelière allemande, sans trop de problèmes. Mais c'est très récent.
C'est très récent et mon livre résulte d'une stupéfaction. Comment a-t-on pu, en France, pendant près de 30 ans, bloquer un changement linguistique naturel, conforme à l'histoire de la langue, et qui s'était développé d'une façon très facile au Québec, en Belgique, en Suisse, et qui s'était arrêté en France, car l'organisme énonçant le droit, l'Académie française, s'était opposé, et avec succès, pendant une trentaine d'années. Maintenant, l'usage s'est répandu. J'ai voulu analyser ce blocage, qui est dû, je crois, à la difficulté qu'a eu l'Académie française de repenser son rôle au XXe et au XXIe siècle. Elle est maintenant concurrencée par les linguistes, bien sûr, par l'État qui souvent intervient dans le domaine de la langue, aussi bien en France, en Belgique qu'au Québec, et aussi par la francophonie. En 1694, on pouvait donner des règles claires et simples à la langue, étant donné qu'elle était parlée par une élite en France même, mais avec 275 millions de locuteurs qui joyeusement innovent et de locutrices qui ont joyeusement innové au Québec, les choses sont différentes. Et je crois que dans un premier temps, l'Académie française s'est un peu braquée. Et puis, nous avons été quelques-uns, peut-être grâce à mon livre, à la faire évoluer, puisqu'on dit que le 7 février, l'Académie française va faire une déclaration solennelle sur la féminisation, préparée par deux dames.
Mais c'est vrai qu'on voit dans votre livre des exemples du chemin parcouru ces dernières années. Il y a ce message de l'Académie que vous citez notamment.
C'est une annonce. Le secrétaire perpétuel, un homme donc, et les membres de l'Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère, X, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, décédé et le 6 février. Or, le secrétaire perpétuel en question, c'est Madame Carrère d'Encausse.
Et la personne décédée ?
Assia Djebar, une femme, dont la féminité est totalement niée par cette déclaration qui date de 2015,
cette avant-hier. Aujourd'hui, ça paraît absolument impossible. Vous le disiez, en Belgique, en Suisse, il n'y a pas eu du tout les mêmes résistances, finalement. C'est l'Académie française qui a contribué à tous ces blocages ou est-ce qu'il y a au fond, quelque chose de plus profond dans la société française?
Les deux, vous avez raison. D'une part, évidemment, l'Académie française, qui dès 1984 fait des déclarations solennelles et violentes contre la féminisation. Mais aussi, il y a ce purisme français que l'on ne sent pas au Québec et que l'on sent moins en Belgique. Il y a en Belgique une grande école grammairienne qui est beaucoup plus libérale et qui regarde l'évolution de la langue. Nous sommes tous en France un peu puristes. Nous adorons les dictées, nous nous battons pour savoir s'il faut dire tel ou tel mot, nous partons en guerre contre les anglicismes. En France, la langue est un combat.
Est-ce qu'aujourd'hui, le combat sur l'écriture inclusive, c'est exactement la même idée ou il y a quelque chose de différent?
Il est vrai que l'on retrouve dans les critiques de l'écriture inclusive le vieux réflexe puriste conservateur, bien sûr. Néanmoins, j'ai une position plus réservée au sein même du camp progressiste et féministe. Je pense que il faut faire confiance à la langue et que la langue a tous les moyens, ne serait-ce que la reduplication français-française, de montrer que un groupe humain est sexuellement mixte. Utiliser systématiquement l'écriture inclusive est peut-être un peu difficile pour des raisons qui tiennent à la difficulté à oraliser, à comprendre, à la pratiquer, à la lire aussi. Les réformateurs de la langue dont je suis depuis la Renaissance souhaitent une transparence dans l'orthographe, dans le lexique, ainsi de suite. Or voilà que on opacifie un petit peu. Donc c'est ce qui me distingue des féministes très très militantes qui voudraient l'emploi systématique de l'écriture inclusive. Pour moi, c'est une notation technique à réserver aux offres d'emploi, à réserver aux textes bien techniques. Mais pour le reste, à nous de voir s'il faut dire « tous les voyageurs sont priés de descendre » ou bien « tous les voyageurs et toutes les voyageuses sont priés de descendre ».
Merci Bernard Cerchellini.
Merci.
Et je rappelle le titre de votre livre, « Le ministre est enceinte », c'est paru aux éditions du Seuil. Les Super Furry Animals, c'est un groupe de pop de Cardiff au Pays de Galles. Ils chantent en anglais, mais pas que. Leur quatrième album entièrement en gallois, Moon, a même été cité dans l'enceinte du Parlement gallois, qui a salué la défense de la langue locale face à l'anglais omniprésent. On écoute un extrait de cet album. Clin d'œil à Vincent Théval qu'on retrouve demain pour parler musique. a été un déclencheur pour beaucoup. La photo du petit Aylan, cet enfant kurde retrouvé mort sur une plage turque en septembre 2015 après un naufrage. Le symbole du drame des migrants en Europe. Des navires ont alors sillonné les flots pour venir en aide aux bateaux en perdition. Mais d'après les chiffres de l'ONU, 2262 morts ont encore été recensés l'an dernier. Et l'ONG catalane Open Arms est l'une des dernières à sauver aujourd'hui les migrants au large des côtes libyennes. De retour à Barcelone depuis le 31 décembre, leur bateau va repartir avec un nouvel équipage de 19 volontaires. Reportage d'Élise Gazangère.
À quelques dizaines de mètres de la plage, face au luxueux hôtel Vela de Barcelone, une vingtaine de personnes en veste rouge s'activent sur le bateau de l'Open Arms. Tout est soigneusement préparé pour le prochain départ imminent en Méditerranée centrale. Dans cet ancien bateau de pêche offert à l'ONG, tous les espaces sont optimisés. Dans la salle à manger, qui sert aussi de salle de réunion, Ricardo Gatti peaufine les derniers détails. Il est le chef de cette 58e mission de l'ONG. L'année dernière, 12 bateaux comme l'Open Arms étaient présents dans la zone. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3.
Nous vivons ça mal, évidemment, parce que quand nous avons commencé, tout était coordonné magnifiquement par les gardes-côtes italiens. Ils dirigeaient toutes les opérations de sauvetage. Maintenant, quand nous sortons, nous sommes complètement seuls. Personne ne nous indique ce que l'on doit faire, où sont les embarcations à sauver. On y va donc à l'aveugle.
Une fois les migrants sauvés, les ONG affrontent désormais une nouvelle épreuve. Trouver un port pour les débarquer sains et saufs. Ricardo évoque le sort des 49 personnes sauvées par le Sea-Watch et bloquées en mer pendant plus de 2 semaines avant d'être accueillies par Malte.
Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je sais que ces personnes n'arrêteront pas de fuir malgré les efforts de l'UE pour ériger des grilles et des murs. Comment voulez-vous freiner le désespoir des gens ?
Malgré ces difficultés, tous les volontaires de l'Open Arms affirment qu'ils continueront à faire ce qu'ils considèrent être un devoir. Oscar Camps, fondateur de l'ONG, supervise les préparations. Il était secouriste à Badalone, au nord de Barcelone. En août 2015, après avoir vu la photo du petit Aylan, il s'est rendu à Lesbos dans l'idée de voir comment il pourrait être utile. Depuis juin 2016, l'ONG opère en Méditerranée centrale, mais l'activiste déplore l'accumulation d'obstacles.
On nous met des bâtons dans les roues, on a des inspections tout le temps. Je crois que ce bateau, c'est le plus contrôlé du pays. Alors on continuera à avoir tout impeccable et on fera ce qu'on peut.
Quant au futur, Oscar Camps ne l'imagine pas meilleur au vu de l'attitude des gouvernements européens. Pour lui, le seul espoir repose sur les citoyens.
On ne prévoit pas que la situation s'améliore à court terme à moins que la population réponde massivement. On voit en Italie plusieurs maires qui se rebellent contre la politique de Salvini. C'est important. Reste à savoir si cet exemple sera suivi et s'il y a d'autres villes qui s'allient pour réclamer un changement dans la politique migratoire de l'Union européenne.
La nouvelle mission de l'Open Arms doit en principe se terminer à la fin du mois, mais les secouristes savent qu'ils pourraient rester bloqués bien plus longtemps en mer dans cette zone, connu désormais comme le couloir le plus meurtrier au monde.
Accent d'Europe à la réalisation Françoise Grelot. Vous nous retrouvez, vous nous réécoutez sur internet rfi.fr et sur les réseaux sociaux. Et puis ici, demain, à la même heure.